Olivier Dish, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, ce lundi, a été lancée en Suisse la campagne officielle pour la votation du 4 mars, la votation dite Nobilag. Alors, vous avez souvent en Suisse des votations de tout type. Toutes n'ont pas beaucoup de succès. Après le dernier sondage qui donne 57% des Suisses favorables à la votation Nobilag, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel intérêt pour les Suisses sur ce sujet?
Alors écoutez, la réponse est clairement oui, oui et oui. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que la population suisse s'intéresse aux médias qu'on leur offre et aux services publics médiatiques. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de révolte contre le service public médiatique. Donc, la campagne est partie, elle va être très intense, et c'est très étonnant, voyez, que le gouvernement annonce, voilà, ouverture officielle de la campagne de la part du gouvernement, de la ministre de la Communication et des médias, notamment. Donc, sans doute, maintenant, on a là, si vous voulez, d'un côté, le gouvernement, les acteurs officiels, il faut bien le dire, avec quantité de spécialistes qui sont à disposition du gouvernement pour toutes sortes de sujets, et donc aussi ici, des argumentaires qui sont créés, on cherche les meilleurs arguments, ce qui devrait le plus porter, et bien sûr qu'une grande partie, c'est de la propagande, je le dis, même souvent des mensonges. Et ce qui est assez étonnant, une façon de vouloir embobiner, faire peur à la population, alors que généralement, on reproche au mouvement dit populiste de jouer sur les peurs. Alors là, je peux vous dire que on est vraiment gâtés. Alors, campagne politique, c'est quoi? Juste un petit rappel quand même, parce que ça va nous intéresser. On va suivre cette campagne et puis faire plusieurs éclairages et articles jusqu'au 4 mars. C'est la lutte pour la définition de la situation du problème. C'est ça la communication politique, l'argumentation politique qui va se développer. Donc, qui arrivera à imposer son point de vue sur le système médiatique suisse? C'est ça la question. Et en gros, chacun veut essayer d'imposer sa vision et l'autre, les adversaires, contestent la vision des autres avec tous les moyens possibles pour finalement essayer de l'emporter. Avec ici, si vous voulez, une différence gigantesque, beaucoup de moyens du côté du gouvernement, des grands acteurs, et très 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 peu de moyens du côté de ces quelques jeunes originaux qui ont développé cette initiative populaire voulant mettre fin à cette redevance obligatoire. Donc, vous avez, c'est vraiment David contre Goliath. On sait que parfois David peut l'emporter. On peut vraiment pas encore dire ce qu'il en est. Ce sondage n'est qu'un indicateur et il y en aura d'autres. Et surtout, la population votera quand même comme elle veut. Alors, si vous voulez, du côté du gouvernement, il y a des arguments qui vont revenir en permanence. Ce service public médiatique, la SSR, comporte 6 000 employés et coûte donc 1,2 milliard, 1,6 milliard si on ajoute l'ensemble des recettes. Alors, maintenant, évidemment que si le gouvernement entre en scène, il a dû se dire quels arguments nouveaux puis-je utiliser, à part ceux déjà annoncés, que le service public médiatique était essentiel pour la cohésion nationale, pour servir les minorités régionales, les minorités linguistiques, que la Suisse s'effondrerait quasiment sans le service public, alors que, comme on l'a dit, la Suisse existe depuis 700 ans, bien avant la télévision, les radios, etc. Mais donc, vous voyez comment on cherche, comment on se construit une argumentation. Évidemment, si vous utilisez de mauvais arguments, vous allez vous discréditer et faire effet contraire. Alors, 6 000 employés, à cet argument-là, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui licencient et personne ne soutient les employés. Ici, ces employés ont un statut de quasi-fonctionnaire et l'entreprise est devenue un monstre bureaucratique. On a beaucoup critiqué ces temps dans les médias. et surtout dans les réseaux sociaux et les commentaires aux journaux, les salaires. Le salaire, chez nous, effectivement, c'est énorme. Du directeur, plus de 500 000 francs par an. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une quantité de cadres, d'autres directeurs. Et le directeur général a lui-même dit qu'on pourrait sans autre supprimer une dizaine de cadres. Ces cadres gagnent entre 20 et 25 000 francs par mois. Donc les gens sont révoltés en voyant le peu de moyens qu'ont les radios et les télévisions locales. Donc ça, c'est un premier argument. On a là une entreprise, si vous voulez, qui a gonflé comme une structure bureaucratique de régime à parti unique. Et le jour où vous démantelez cela, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a des superflus énormes. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, et on n'est pas à une contradiction près, la ministre nous dit par exemple que si la loi, si l'initiative est acceptée, le gouvernement sera obligé de l'accepter et qu'en gros, ce sera le désert médiatique. Ça, c'est extraordinaire. Il y a plusieurs initiatives populaires qui ont déplu au gouvernement et au Parlement sur l'immigration de masse, sur l'expulsion des criminels étrangers, où on n'a pas appliqué, on a fait traîner, et là, tout à coup, on fait le chantage, on dit on va être obligé de l'appliquer. Voyez, surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette démocratie directe qui discute en permanence des problèmes, les gens ne sont pas idiots. Les citoyens, c'est un grand risque de prendre les gens pour des imbéciles, et quand on voit les milliers de commentaires, on se rend bien compte que ça n'ira en tout cas pas tout seul. Elle nous dit aussi, cette ministre, que nous serions le premier pays européen à abolir le mandat de service public pour la radio et la télévision. Eh bien, voyez-vous, c'est évidemment caricatural. Dans tous les pays, vous avez un service public, mais vous avez aussi de la concurrence, des chaînes concurrentes, des radios concurrentes, d'envergure nationale, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse, et c'est ça qui est contesté. Personnellement, je ne suis pas opposé à un service public complètement redimensionné, à une vraie concurrence, plusieurs chaînes concurrentes, et évidemment d'orientation différente, puisque ce qu'on reproche aussi, bien sûr, au service public, et des enquêtes internes l'ont montré, c'est que les trois quarts des journalistes sont de gauche et surtout dans les domaines de l'information, des magazines, etc. Alors on nous parle aussi du pays aux quatre langues, qu'il faut évidemment plus de moyens et que les minorités n'auraient plus de moyens, puisque le majoritaire alémanique, qui sont les trois quarts de la population, paye beaucoup plus qu'il ne reçoit et l'argent qu'il paye en plus va aux minorités. Mais voyez là, par exemple, quand on dit toujours on veut travailler à la cohésion nationale, eh bien on pourrait dire, mais maintenant les journalistes, comme dans bien des métiers, devraient connaître deux, trois, quatre langues et être capables de faire des informations, des reportages, des magazines avec en collaboration entre plusieurs communautés linguistiques, des journalistes de différentes langues. Ça créerait de la communication, de la cohésion, développerait les rapports entre les différentes communautés plutôt que chacun chez soi avec son petit magot d'argent ou son gros magot. Il y a plein de possibilités, effectivement, de développer l'identité, les particularités régionales et locales, mais en collaboration. C'est extraordinaire qu'il n'y ait pas comme exigence qu'un journaliste du service public connaisse au moins deux, trois langues. On aura le temps d'avancer bien d'autres arguments encore. Alors, voyez, il y a aussi le fait, c'est assez étrange, c'est un raisonnement quasiment marxiste, où on dit, il n'y aura que Zurich, la métropole riche, grande, qui pourra s'offrir des médias privés avec l'argent qu'il faut, tandis que les autres régions n'auront pas grand-chose, seront peut-être justement un grand désert. Eh bien, là aussi, il en va de même avec les TV et les radios régionales et locales. Il y en a une quarantaine. Et figurez-vous que ces médias locaux ne reçoivent que 60 millions sur les 1,3 ou 1,6 milliards. Pour ma part, ces radios et ces TV locales jouent un rôle citoyen essentiel et devraient bien sûr recevoir beaucoup plus de moyens parce qu'un service public y aura. Et surtout, voyez, le catastrophisme paye rarement. Il va de soi qu'un gouvernement doit être capable de gouverner, de prévoir, de gérer des crises. Si c'est accepté qu'il y a une crise, eh bien le gouvernement et le Parlement vont devoir faire une nouvelle loi qui donne justement satisfaction aux différents acteurs et dont l'objectif principal devrait être d'avoir un vrai pluralisme avec des journalistes d'orientation différentes, variables. Vous avez quasiment aucun journaliste qui est membre ou proche de l'UDC, alors que les socialistes, vous le devinez, ont le plus intérêt à garder ce service public, évidemment, et qu'ils utilisent aussi tous les moyens. Donc, voilà que le gouvernement entre en scène avec toute une série d'arguments qui sont déjà immédiatement contestés. Alors, il y a une autre chose, si vous voulez, qui est étonnante quand même, c'est le patronat. Alors, je prends un exemple d'un journal, du patronat roman, qui s'appelle Entreprise Romande, où la journaliste qui fait l'éditorial, elle titre « Les médias sociaux menacent-ils la démocratie ?» Vous voyez, on traite en même temps l'initiative Nobilag et les médias sociaux. Alors là, si vous voulez, on dit des médias sociaux, c'est la vision une des plus caricaturales que j'ai vues. Donc on veut régler son compte aux médias locaux, alors qu'ils sont très peu répandus. Eh bien, on dit xénophobie, misogynie et autres discours extrémistes, les réseaux sociaux ne volent pas toujours haut. D'emblée, on discrédite les médias sociaux. Ensuite, on nous parle de Nobilag, ça vient quand même, n'est-ce pas? Et on nous dit que Nobilag et la discussion là autour ne servira en rien le débat démocratique. Certes, dit-elle, on peut se plaindre de l'orientation des journalistes de gauche à 75%, mais là n'est pas le problème. L'argument est un peu court, nous dit-on, car un journaliste, même s'il est de gauche, peut être objectif. C'est le patronat qui dit cela. C'est un petit peu surprenant quand même. Et on nous dit que le service public donne la parole à tout le monde et que c'est un gage du fédéralisme. Vous voyez, dire qu'il donne la parole à tout le monde alors que c'est évident qu'il y a une surreprésentation de la bien-pensance et du politiquement correct. Bien sûr, on nous dit les minorités ne seront défavorisées. Ça ne tient qu'à mettre sur pied une loi qui, justement, leur donne les moyens nécessaires. Alors, du côté du patronat, ce qui est quand même surprenant, on nous dit encore, on insiste sur les médias sociaux. Les médias sociaux peuvent sans doute être soupçonnés de menacer la démocratie, tout comme le fait Nobilag avec son texte jusqu'au boutiste. On ne dira jamais assez combien le travail journalistique est indispensable. Il ne sera pas remplacé de sitôt par les contenus d'autres sources que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, voyez, c'est un règlement de compte qui est quand même surprenant. Les réseaux sociaux menaceraient la démocratie, le journalisme serait exemplaire, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Fake news et les sites d'information, les médias sociaux, oui, il y a de tout sur Internet, mais il y a des sites d'information, dont le nôtre, avec 50 000 articles, on l'a dit souvent, très peu de fake news, aucun même. Alors, vous voyez, on sent la tension, on sent la crispation, les intérêts sont donc importants, et c'est là qu'on va suivre l'argumentation, n'est-ce pas, des différents camps, parce que plein d'acteurs vont entrer en ligne de compte. Je tiens juste encore à en rappeler un qui est intervenu aussi là aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, que même les évêques interviennent et sont inquiets des possibles conséquences d'une acceptation de l'initiative Nobilag. On peut se poser la question, que viennent-ils faire là-dedans? Sans doute craignent-ils de ne plus avoir le public qu'ils ont lors des messes télévisées, mais enfin ils nous disent que là aussi, que la cohésion nationale, voyez l'argument bateau, à force d'être ressassé, ça va vraiment faire contre-effet et que ça agrandirait les fractures sociales et que le service public, n'est-ce pas, participe à la formation de l'opinion publique, sans doute comme les églises, n'est-ce pas? Là, voyez, c'est ce terme de formation. Je me suis toujours révolté contre ce terme de formation de l'opinion publique. Les gens, aujourd'hui, sont intelligents, et dire qu'on veut les former, ça les révoltera sans doute encore plus. On peut les informer, on peut créer des débats contradictoires, certainement, pour compléter son information, mais dire qu'on veut les former, c'est tout de même les prendre pour les idiots, ce qu'ils ne sont pas, et ils le montreront. L'identité suisse serait affaiblie, nous disent aussi les évêques. Tiens, 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 et particulièrement dans les régions minoritaires. Affaibli, on l'a bien vu que c'est pas le cas. Généralement, plus un groupement est minoritaire, plus il est actif. Et c'est le cas en Suisse, où il y a un formidable dynamisme culturel, linguistique, chez les plus minoritaires, à savoir les italophones et ceux qui parlent le romanche. Alors, pour aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le suspense est énorme et cela est bienvenu pour une démocratie participative. Il faut que tous les acteurs participent. Vous pensez bien que nous le faisons, la preuve. Mais je dirais que ça sera aussi un révélateur, ça l'est déjà, d'une toute autre manière, du fossé qu'il y a entre la base de la population et les élites, ici politiques, médiatiques, économiques. Donc ce débat, cette initiative populaire, cette communication politique sur No Bilag va montrer ce fossé et cette divergence de vues et va montrer que les citoyens sont particulièrement matures, informés, capable de discerner, de raisonner et de dire ce qu'ils veulent. Donc, le mot d'ordre devrait être, n'est-ce pas, dans un cas comme celui-là, tout simplement résister à cette propagande qui sera souvent, qu'il est déjà, mensongère. Et l'objectif consiste aussi à dévoiler cette propagande, et plus on arrivera à la dévoiler, à montrer qu'elle est intéressée, plus je pense que le score sera important du côté de ceux qui veulent la suppression de ce service public médiatique, comme il est maintenant. Je le répète, pour ma part, je ne suis pas opposé à un service public, mais fortement redimensionné et avec un appui très important aux différents acteurs locaux, régionaux, par exemple. Donc, mot d'ordre, ne pas avoir peur de la peur qu'on veut faire aux citoyens, résister et discuter, intervenir activement.
Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windisch.